Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Mobilisation contre le gouvernement en Turquie. Depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre affrontent des manifestants à Istanbul et dans d'autres villes du pays. Ils remettent notamment en cause l'autoritarisme du Premier ministre. Nous verrons avec le vicaire apostolique à Istanbul qu'il n'y a cependant pas d'alternative politique. Le pape François encourage la lutte contre les abus sexuels sur mineurs commis par des membres du clergé. Il a salué le travail effectué par le Centre pour la protection de l'enfance de l'Université grégorienne. Rapport de la FAO sur la malnutrition, plusieurs milliards de personnes en sont victimes, entre ceux qui ne mangent pas leur faim et ceux qui, au contraire, mangent mal. Le Honduras ravagé par la violence des gangs, nous entendrons le témoignage poignant d'une sœur vivant sur place et qui préfère garder l'anonymat par peur des représailles. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Depuis plusieurs jours, la ville d'Istanbul vit au rythme des manifestations d'opposants à la destruction d'un parc au cœur de cette métropole de 15 millions d'habitants. Les manifestants se donnent rendez-vous à deux pas de là, place Taksim, lieu emblématique de la cité. Les violences qui émaillent cette protestation ont déjà fait deux morts parmi la foule. La fermeté du gouvernement, son inflexibilité sur ce dossier précis, alors que la justice a suspendu le projet au cœur du débat, radicalise les manifestants. Face à ce comportement perçu comme autoritaire, le mouvement de protestation s'est étendu à d'autres villes de Turquie. En ligne de mire, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, vivement critiqué ces derniers jours. Mais pour Mgr Pelâtre, vicaire apostolique à Istanbul, il n'existe pas d'alternative politique pour le moment.
En Turquie, la démocratie fonctionne. Le gouvernement actuel a été élu démocratiquement. Et on espère que l'année prochaine, il y aura des élections démocratiques comme les fois précédentes.
Comment réagissent les communautés chrétiennes à ces événements?
Les communautés chrétiennes sont très discrètes et très effacées. D'abord, comme opinion, elles n'existent pas dans le paysage du pays. Maintenant, surtout pour nous, les catholiques latins, nos églises sont remplies maintenant d'étrangers et d'immigrés. Pas eux qui vont prendre position dans des choses pareilles.
Vous avez peur d'une radicalisation des musulmans en Turquie?
Pour le moment, on ne voit pas trop, mais c'est-à-dire, ce gouvernement actuel, ce parti, donc pour ramasser du monde, a voulu donner aussi des assurances aussi aux musulmans traditionnels. Ce parti est très composite. Il y a bien sûr des musulmans très convaincus, enfin, qui voudraient faire triompher un peu les lois musulmanes. C'est le seul parti qui, pour le moment, a pu gouverner et rassembler assez de monde. Donc il y a des gens des autres partis traditionnels qui n'étaient pas du tout de cette idéologie, mais qui sont passés à ce parti aussi pour avoir la voix au chapitre et pouvoir aussi faire un équilibre. Donc c'est un parti très composite en fait.
Est-ce qu'il y a une alternative ce parti dans la société?
Pour le moment il n'y a pas d'alternative, c'est ça qui est inquiétant, parce que si, donc, comme les manifestants le demandent, on fait tomber le gouvernement, on fait tomber ce Premier ministre qui quand même qui tient depuis 10 ans, c'est pas peu d'avoir tenu 10 ans. Et donc il avait donné plus ou moins satisfaction jusqu'à maintenant. Alors il n'y a pas d'alternative parce que l'opposition actuellement est très faible. Mais je pense que les partisans du Premier ministre actuel voudraient le ramener un peu à la raison. Ils le trouvent un petit peu trop catégorique, un peu trop arrogant. Le président de la République est de son parti. Et lui, il appelle au calme. Tandis que le Premier ministre, lui, veut montrer son... Voilà, on ne cédera pas. Enfin voilà, nous sommes dans un rapport de force actuellement.
Et vous êtes favorable à un statu quo?
Il faudrait une amélioration. On pense tous que ces événements peuvent être une leçon, qu'il arrête donc cette arrogance un peu de tout décider et donc qu'il soit un peu plus démocrate. Certains ont dit, oui, il a été élu démocratiquement, mais lui-même n'est pas démocrate. Voilà ce qu'on lui reproche. Et moi, je souhaite que la démocratie continue, c'est tout. Que ce soit les élus du peuple qui soient au pouvoir.
Mgr Pelâtre, vicaire apostolique à Istanbul, il était joint par Olivier Tosserie. Traversons la frontière et partons pour la Syrie, où la population civile est conduite à l'abattoir. Une image forte utilisée par Mgr Jean Barre, le métropolite grec-catholique d'Alep. Dans une interview accordée à l'agence Fides, il exprime son espoir que la conférence de Genève 2 constitue un tournant et apporte une solution politique au conflit syrien. Il parle d'un pays réduit en cendres, où l'on est forcé d'assister à des violences, à des mises à mort terribles de civils et d'enfants, à des enlèvements qui défigurent le visage visage du peuple syrien. L'archevêque Melkit d'Alep reconnaît n'avoir aucune nouvelle des deux évêques orthodoxes enlevés il y a un mois et demi dans la région. À ces exactions s'ajoute le manque de marchandises, de combustible, d'électricité, parfois de nourriture. Et les perspectives ne sont guère rassurantes. L'avenir pour les chrétiens et tous les Syriens ne peut être basé que sur la pleine citoyenneté, sur la liberté, sur la dignité et sur le respect de l'autre, précise le métropolite. Le thème de la corruption, de nouveau évoqué par le pape François lors de la messe matinale en la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Lundi déjà, le pape avait dénoncé les corrompus. Ce mardi donc, il a affirmé que les chrétiens doivent avoir le courage de la vérité contre l'hypocrisie et le langage socialement éduqué, car l'hypocrisie est le langage de la corruption. Le chrétien doit donc se faire porte-parole de la vérité de l'évangile avec la même transparence que celle des enfants. Ceux qui utilisent un langage politiquement correct veulent une vérité soumise à leurs propres intérêts, a déclaré le pape. Ils sont eux-mêmes victimes, expliquait-il, de l'idolâtrie narcissique qui les porte à trahir les autres et les porte à commettre des abus de pouvoir à l'encontre de ceux qui ont confiance en eux. Et le pape d'encourager à repousser la vanité, cette faiblesse qui fait que l'on aime les compliments, qui ne sont que langage persuasif qui porte au contraire à l'erreur et au mensonge. Parmi les personnes présentes à cette messe du matin, il y avait le père Hans Zollner, le responsable du Centre pour la protection de l'enfance de l'université grégorienne à Rome. Il a pu s'entretenir avec le pape François qui l'a encouragé, lui et ses collaborateurs, à poursuivre leur travail. Pour le moment, le centre ne travaille qu'avec 8 diocèses et quelques provinces jésuites en Inde et en Indonésie. Le père Zollner a déclaré qu'il voulait approfondir la contribution du centre et ses modules d'apprentissage et toucher le plus de monde possible. La formation d'enseignants et de personnel dans les paroisses sera également nécessaire, selon lui. Dans cette optique, il aimerait créer un réseau de facultés de psychologie en partant des facultés des jésuites présentes dans le monde entier. Le travail mené par le Saint-Siège dans le cadre de la lutte contre les abus sexuels est de longue haleine. Il faut changer les habitudes, les mentalités, s'adapter aussi aux cultures différentes d'un pays à l'autre. Aux Philippines, par exemple, un prêtre missionnaire qui a travaillé ces 4 dernières décennies avec des enfants prostitués a accusé les évêques philippins d'étouffer le scandale d'abus sexuels rampants commis par des membres du clergé contre des enfants, ce dont s'est défendue la Conférence épiscopale catholique des Philippines. La conférence a en effet expliqué que les enquêtes contre des collaborateurs présumés pédophiles étaient confidentielles. Les résultats de ces enquêtes doivent maintenant être annoncés à Rome. Aux Philippines, la plupart des membres du clergé accusés d'avoir commis des abus sexuels ont vu leur cas réglé hors tribunal ou bien ont été acquittés ou transférés dans une autre paroisse par leurs évêques. Et ce, selon l'agence UCA News. Une dernière nouvelle concernant le Vatican. Le pape François a autorisé ce mardi la promulgation de plusieurs décrets de la Congrégation pour les causes des saints qui concernent surtout des martyrs de la foi durant la guerre civile espagnole. L'Église aura donc bientôt 95 nouveaux bienheureux, notamment le serviteur de Dieu Abel Ángel Palazuelos Maruri et ses 17 compagnons bénédictins espagnols tués en 1936. Pour plus de précisions sur ce décret, une seule adresse, www.radiovaticana.va. Le peuple hondurien continue à porter une lourde croix, celle de la violence. C'est en ces termes que la Caritas Honduras a alerté dans un communiqué publié fin avril sur une situation devenue extrêmement problématique pour le pays, où le taux d'homicide, plus de 85 pour 100 000 personnes, dépasse celui d'un pays en guerre. L'organisation catholique y déplorait l'omniprésence d'une violence et d'une criminalité irrationnelle et intarissable, dénonçant par ailleurs l'inertie des autorités, ne constatant aucune action concrète de leur part. Les bandes organisées, les maras, maîtres du narcotrafic, font en effet régner leurs lois, terrorisant la population, rançonnant les commerces, plongeant le pays dans une violence devenue endémique et incontrôlable. L'évêque auxiliaire de San Pedro Sula, Mgr Romulo Emiliani, avait obtenu, fin mai, une déclaration d'intention en faveur de la paix de la part de 2 des gangs les plus violents du pays. La trêve n'est cependant pas encore à l'ordre du jour. Manuela Figi a pu contacter une missionnaire vivant au Honduras. Elle a accepté de livrer son témoignage, mais sous le sceau de l'anonymat.
Il y a différentes formes de violence. Il y a la petite délinquance qui est très, 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 très répandue. C'est-à-dire que dans les barrios, dans les quartiers, c'est un contexte de beaucoup d'insécurité pour les familles. Bon, les gens qui rentrent de leur travail, par exemple, en fin de semaine, bon, ben, il faut faire attention à celui qui sort d'être payé ou qui sort de la banque. Bon, on va facilement vous attaquer ou vous voler dans la rue, quoi.
Que pouvez-vous nous dire sur ces bandes organisées, ces maras, ainsi qu'on les appelle, ces bandes organisées, donc, qui terrorisent la population?
Ils dominent, ils ont sous leur pouvoir 2244 villages et quartiers des villes. C'est des bandes de muchachos, de garçons, des garçons qui ont entre 13 et 20, 25 ans, qui prennent possession d'un lieu, qui prennent possession en vendant de la drogue. Et donc, comme ça, ils se font des amis à partir des enfants. Il y a une jeune qui chemine avec nous, elle vit près de San Pedro, de l'autre côté de San Pedro, dans une zone chaude. Elle expliquait que, bon, il y a l'impôt de guerre, ce qu'ils appellent l'impôt de guerre, l'impuesto de guerra, c'est-à-dire qu'ils demandent donc aux habitants, pour vivre ici, il faut payer 100 lempiras. Si vous avez un commerce, il faut payer 300. Si vous avez un plus grand commerce, il faut payer plus, 500, 800 lempiras, toujours plus. Les lignes de taxi, bon, ils doivent payer. Les bus, ils viennent rechercher l'argent. Alors, qui vient rechercher l'argent? Ce sont des enfants de 7 à 8 ans. Ces enfants, pour avoir ce rôle de la part de la bande, disons, ils leur ont demandé de tuer avant. C'est-à-dire que des enfants de 8 ans, ils viennent avec leur arme et ils ont déjà tué pour être digne d'aller rechercher cet argent. Un monsieur de notre paroisse nous disait hier, il y a deux jours en réunion, nous disait que tous les chauffeurs de taxi de l'autre localité, d'une communauté de notre paroisse, et c'est un exemple parmi des centaines, donc le groupe de taxistas, le groupe de chauffeurs de taxi, ils doivent payer 7500 lempiras par semaine. Alors, ils leur ont fait choisir, c'est muchachos, la bande leur fait choisir. Où est-ce que vous préférez aller payer? Vous préférez aller payer à telle colonie ou vous préférez aller payer à la prison? C'est-à-dire que de la prison et des zones chaudes, ils gèrent toute la vie du pays, quoi. Ils sont les maîtres du jeu, quoi. Et au-dessus d'eux, il y a tout le narcotrafic. Le narcotrafic, ils les manipulent avec tous les degrés d'autorité entre eux, quoi.
Dans un communiqué, la Caritas déplorait le manque de volonté politique des autorités. C'est aussi ce que vous constatez de votre côté?
Il n'y a pas de volonté de punir les violations contre les droits de l'homme Honduras. Samedi dernier est venu nous parler un juge qui est professeur à l'université à San Pedro, qui est avocat. Il nous disait que pour lui, c'est le problème majeur, c'est l'implication de l'État et des fonctionnaires au niveau de la corruption, quoi. L'argent du narcotrafic achète les autorités. C'est la corruption de la police préventive, la corruption des politiques au niveau de l'État. On dit qu'on combat. Mais par exemple, il y a une loi qui permet de porter 5 armes. Alors, dans la mesure où on porte 5 armes, si la loi le permet, bon, ben, comment on va lutter contre cette violence, quoi.
Est-ce que vous-même, vous vous êtes déjà senti menacé de quelque manière?
On a eu différents problèmes. On a eu des assaltos de la maison, des voitures volées, pénétrées dans la maison aussi, dans la chapelle avec revolver. On n'est jamais tranquille. Il y a quelques jours, la police a traversé notre jardin pour bloquer des gens qui venaient de tuer. Donc, on ne sait jamais trop ce qui nous attend, quoi. L'Église est quand même respectée, mais bon, jusqu'à certains points, il y a des prêtres dans des zones qui ont été maltraités. Il y en a un qui a été au point, ils ont voulu le tuer. Celui qui a été désigné pour le tuer, il a pris la fuite.
Des propos recueillis par Manuela Afigi. La FAO, comme Sisyphe, poussant son rocher, dénonce comme chaque année le scandale de la malnutrition. Dans son rapport annuel cette année, l'Organisation mondiale des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture rappelle que 870 millions de personnes à travers le monde souffrent de la faim. Mais que c'est sans compter les 3,5 milliards de personnes dont la santé, le bien-être et la vie sont compromis par la malnutrition. Cette situation, souligne la FAO, a également un coût pour l'économie mondiale. Les précisions de Bernard de Cotigny.
En incluant la perte de productivité et les coûts directs des soins de santé, la FAO calcule que la malnutrition coûte 3 500 milliards de dollars par an, soit 500 dollars par personne. Sur le plan social, la malnutrition de la mère et de l'enfant continue de réduire la qualité et l'espérance de vie de millions de personnes, tandis que les problèmes de santé liés à l'obésité, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète, en touchent des millions d'autres. Pour améliorer notre façon de manger, le rapport présente plusieurs recommandations. Tout d'abord, mettre en œuvre les politiques agricoles, les investissements et les travaux de recherche indispensables pour augmenter la productivité. Et puis, réduire les pertes d'aliments et le gaspillage. Enfin, aider les consommateurs à faire des choix alimentaires sains pour une meilleure nutrition. Dans ce combat contre la malnutrition, les femmes ont un rôle central à jouer, mais les pouvoirs publics également, car comme le souligne le rapport de la FAO, mettre les systèmes alimentaires au service d'une meilleure nutrition est une tâche complexe qui nécessite des capacités de commandement et un engagement politique fort au plus haut niveau. Une mise en place difficile donc, mais pas impossible.
Combien il est important de dialoguer entre communautés, entre religions et entre peuples. Un dialogue que cherche justement à nouer le parvis des gentils, qui fait étape dans une ville qui abrite de nombreuses communautés différentes, Marseille. Cette métropole du sud de la France accueille cette initiative du Conseil pontifical pour la culture le week-end prochain. Ce parvis des gentils, dont l'objectif premier est de faire dialoguer les croyants et les non-croyants, coïncidera avec la fête du Sacré-Cœur, une tradition populaire à Marseille. Et d'ailleurs, pour l'occasion, l'événement a été rebaptisé en Parvis du Cœur. Les précisions de Jean-Baptiste Cocagne.
Marseille est cette année la capitale européenne de la culture. Le diocèse local a voulu s'associer à l'événement en invitant le Conseil pontifical de la culture à 4 jours de débats et de conférences. Le président du dicastère, le cardinal Ravasi, participera à plusieurs colloques sur les liens entre l'humanisme et la religion. Deux auteurs seront particulièrement à l'honneur, Paul Ricoeur et Albert Camus. Le cardinal Gianfranco Ravasi.
Les deux se sont posés la question fondamentale de l'existence. Camus s'est beaucoup intéressé au sens de la vie, aux questions ultimes qui viennent dans chaque recherche à travers un parcours existentiel. De l'autre côté, la symbolique du mal de Ricoeur est l'interprétation, la façon juste pour réussir à poser correctement ces questions.
Albert Camus, un auteur agnostique, mais dont la pensée peut intéresser l'Église. C'est l'avis du père Laurent Mazas, chargé du parvis des gentils au sein du Conseil pontifical pour la culture.
La pensée de Camus, comme la pensée d'ailleurs de tout non-croyant, devrait pouvoir intéresser qui réfléchit sur la foi, même le croyant, parce qu'il met extrêmement bien en relief tout le drame de l'existence humaine. Qu'on pense à la question de la mort des enfants, la souffrance. Et donc il évoque quelque chose qui est dans notre cœur et qui nous scandalise nous aussi.
Faire dialoguer le civil et le religieux, c'est l'essence même du parvis des gentils. Et la date de la fête du Sacré-Cœur répond bien à cette idée. À Marseille, c'est chaque année le jour du vœu des échevins, quand les magistrats civils de la ville ont confié la cité à la miséricorde du cœur de Dieu pour éviter la propagation de la peste en 1720.
Un sujet signé Jean-Baptiste Cocagne. Dimanche, les catholiques du monde entier ont pu adorer le Saint-Sacrement à la même heure, quel que soit leur fuseau horaire et l'endroit où ils se trouvaient. Un Saint-Sacrement porté en procession dans de nombreuses paroisses à travers le monde, comme ce fut le cas à Saint-Pétersbourg en Russie, un événement pour l'Église locale au regard de l'histoire du pays. Antonino Gallofaro.
Une procession catholique portant le Saint-Sacrement dans les rues de Saint-Pétersbourg, cela ne s'était pas vu depuis 1918, c'est dire l'émotion des catholiques de la capitale du Nord en cette fête Dieu. Jusqu'alors, les fidèles étaient confinés dans l'église de Notre-Dame de Lourdes, la seule à être demeurée ouverte pendant la période soviétique. Certes, depuis 1997, ils avaient obtenu le droit d'en sortir, mais ils n'avaient jamais pu se mettre d'accord avec les autorités sur un parcours. Le père Hyacinthe d'Estivelle, dominicain, curé doyen de la paroisse Sainte-Catherine à Saint-Pétersbourg, revient sur l'importance de cette procession.
C'est pour nous un événement historique puisque c'est la première fois depuis 95 ans que nous effectuons une telle procession entre deux églises. C'est en plus un événement particulièrement symbolique puisque l'église Notre-Dame de Lourdes est la seule église qui n'a jamais été fermée à l'époque soviétique et la nôtre, Sainte-Catherine, la première à avoir été ouverte après la perestroïka. Et donc c'est avec une grande joie que nous avons pu effectuer avec tout le clergé catholique de Saint-Pétersbourg, les paroissiens, les religieux, cette procession. C'était aussi pour nous un signe d'unité entre toutes les paroisses, les 7 paroisses de Saint-Pétersbourg.
Un vrai symbole aussi bien pour les catholiques de Saint-Pétersbourg que pour la ville en elle-même. La procession a notamment emprunté la perspective Nevski, principale artère de la cité, et elle est passée devant les plus beaux monuments de la ville. Des monuments qui, pour la plupart, ont été construits selon les plans d'architectes catholiques venus d'Europe occidentale.
Antonino Gallofaro. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va ou bien sur notre page Facebook Radio Vatican en français. Rendez-vous demain, même lieu, même heure.